Voici le 13h, une présentation de Marie-Françoise Eolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Procréation médicalement assistée, le miracle est possible. La science et la patience ont déjà permis la naissance de 500 bébés au Crasser. Une prouesse médicale qui a un coût et qui répond à des exigences légales. Fécondation in vitro, concours de patience ou miracle, c'est le dossier du 13h. Champagne, fin de l'épisode CRTV. Pour la pétillante Joséphine Danou, le directeur délégué CRTV Production a pris sa retraite ce jour. La cérémonie de revoir à la productrice de Paris à tout prix s'est tenue à la maison de la radio en présence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Un hommage bien mérité qui ouvre une nouvelle séquence de la vie professionnelle de Tazibi, l'étoile de Noudi. Basketball Africa League 2024, suspense jusqu'à la dernière journée des qualifications de la zone 4 ce soir au gymnase du complexe sportif de Japoma à Douala. Show Sport de la République démocratique du Congo décroche le premier ticket qualificatif devant KSA Basket du Cameroun. L'équipe camerounaise recule au deuxième rang du classement général. Innovations induites par la nouvelle loi régissant les archives au Cameroun, enjeux et défis du nouveau régime des forêts et de la faune, point de la situation épidémiologique au Cameroun, tels sont les principaux points inscrits à l'ordre du jour du Conseil de cabinet du mois d'octobre tenu ce jeudi à l'immeuble Étoile, sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté, de notre correspondante permanente à l'immeuble Étoile, Laurentine Bocono.
En l'absence d'un système national d'archivage fiable, la souveraineté informationnelle du Cameroun était exposée à des vulnérabilités de toute nature. Aussi, la nouvelle loi ouvre-t-elle une ère nouvelle en introduisant des innovations majeures. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidoumpat, en a cité cinq, dont l'institution d'un organisme public transversal chargé de la gestion du système national d'archivage, le financement du système national d'archivage, le renforcement du système de sanctions. Les tests d'application sont en cours d'élaboration. Il reste aussi à relever les défis de l'adaptation aux nouvelles technologies de la formation du personnel archivistique. À une autre échelle, les enjeux du nouveau régime des forêts et de la faune sont tout aussi prégnants. Le ministre des Forêt de la faune, Jules Doré Ndongo, suggère la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Il cite à cet égard l'aboutissement de l'organigramme du ministère et du statut spécial des personnes du corps des eaux, le renforcement des capacités des officiers de police judiciaire à compétences spéciales du MINFOP. Autre défi à relever, la rémanence des risques sanitaires, notamment la variole du singe, autrement appelée pox, la rougeole, la poliomyélite, la fièvre jaune et les risque de flambée de COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, en a fait la recension. Il souligne qu'il est primordial de renforcer la planification et la préparation pour la réponse aux urgences. Aussi, la nouvelle stratégie nationale de surveillance intégrée de la maladie et riposte vient-elle d'être adoptée, ainsi que la deuxième édition du plan de préparation multirisque et de réponse aux urgences de santé publique. Dans son propos introductif, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a prescrit la nécessité de s'approprier des tests récemment adoptés par le Parlement. La gestion des archives constitue à cet effet un enjeu essentiel pour appréhender le passé, comprendre le présent et construire un avenir éclairé, a indiqué le premier ministre chef du gouvernement, pour qui les archives sont un outil précieux pour la recherche, l'éducation, la justice, la culture et la sauvegarde du patrimoine national. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
Sécurité aérienne, le passeport camerounais déclaré meilleur passeport biométrique dans le monde. Le précieux sésame vient de bénéficier de la reconnaissance mondiale à la suite de la tenue à Yaoundé des universités de la sécurité aérienne. Célérité, crédibilité, sûreté et sécurité sont entre autres qualités qui ont milité en faveur du document de voyage camerounais. Charles Lebon-Nouissot.
Le Cameroun vient de marquer un tournant décisif en obtenant la reconnaissance internationale de son passeport biométrique. Lors du Forum mondial de l'aviation civile à Yaoundé, des experts ont salué cette avancée technologique témoignant de l'engagement du pays en matière de sécurité et de modernisation. Commissaire divisionnaire Isabelle Fouda, commissaire à l'émigration du centre.
Nous avons eu des échanges entre les États, des bonnes pratiques, tant au niveau de la conception des choses par l'OACI. Le Cameroun a l'un des meilleurs passeports au monde, meilleur en matière de sécurité, et nous sommes numéro un en termes de célérité. C'est également l'occasion pour sensibiliser nos collaborateurs pour maintenir ce niveau que nous avons acquis sur le plan mondial.
En offrant un accès facilité et sécurisé aux citoyens, ce passeport est un symbole d'identité et de fierté nationale, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement économique et touristique du pays.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 6 minutes à Yaoundé. La fécondation in vitro, déjà 5 bébés au crasser. La procréation médicalement assistée est effective au Cameroun et respecte certaines règles médicales et les exigences des couples ou des femmes demandeurs. Dans les coulisses de la procréation, suivant notre guide Liliane Mouvungu.
Il y a des préliminaires. Il faut diagnostiquer les raisons de l'infertilité et c'est au terme d'un bilan de santé et des examens gynécologiques spécifiques pour détecter la cause exacte. Si elle est mariée, les examens concernent le couple. Les résultats permettront donc de savoir d'abord si c'est l'homme ou la femme qui pose problème. Ensuite, réunir le couple et leur donner le schéma de la fécondation et la matière première de base qu'il faut produire, soit l'ovocyte, soit alors les spermatozoïdes. Dès lors que cette étape est passée, le couple attend la procréation médicalement assistée et le résultat qui sera soit positif, soit négatif. C'est une épreuve stressante qui mérite un accompagnement médical, familial, moral. Et même en cas d'échec, il est souhaitable d'encourager les femmes ou le couple à recommencer la procédure. C'est un passage pénible, stressant, mais obligé.
Avant toute considération médicale, il est judicieux de savoir ce que c'est que la fécondation in vitro. Le professeur Jean-Marie Cassia, administrateur directeur général du CRASER, est au micro de Liliane Mouvungu.
C'est un terme scientifique, fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on fait féconder l'ovocyte d'une femme à l'aide de spermatozoïdes à l'extérieur de l'organisme de la femme. Il y a plusieurs techniques. C'est un parcours assez difficile, assez long, parfois, qui peut être aussi court, bien sûr. Il faut d'abord comprendre qu'il s'agit du couple. Ce n'est pas la femme seule qui vient, c'est le couple qui est concerné. Et les étapes consistent donc, bien évidemment, comme toute démarche médicale, à passer par un examen clinique de la femme et parfois de l'homme. Et en ce moment-là, on va détecter un certain nombre d'anomalies cliniquement. Mais si on se rend compte qu'il y a un problème, c'est peut-être parce que les trompes sont bouchées, parce que la femme n'arrive pas à ovuler normalement, ou bien que le sperme du monsieur n'est pas optimal. Donc il y a deux problèmes importants qu'il faut bien observer. Est-ce que la femme ovule bien? Est-ce que son système génital est normal pour pouvoir porter un bébé? Et est-ce que le sperme du monsieur est un sperme normal capable de faire féconder l'ovule d'une femme?
Le professeur Jean-Marie Cassia sera l'invité du 17-18 cet après-midi. C'est un sujet sensible et complexe, celui de la fécondation in vitro ou FIV. Pour plusieurs femmes, la FIV représente un miracle de la médecine moderne, offrant l'espoir de devenir mère là où la nature n'a pas permis. Pour d'autres, ce parcours est synonyme de patience, de sacrifice et parfois de désespoir. Des témoignages poignants de femmes ayant fait l'expérience de la fécondation in vitro dans ce reportage de Tatiana Iboudou.
Après des années d'essais infructueux, elles se sont tournées vers la FIV. Chacune porte un parcours unique, fait de hauts et de bas, d'espoir et de déception. Agnès Batom a essayé sans succès plusieurs fois.
Ça peut marcher au premier coup comme ça peut marcher au troisième. C'est un véritable parcours du combattant. Le souvenir que j'ai de ces deux expériences sont un peu très douloureuses.
Si pour certaines, la FIV aboutit finalement à une grossesse, pour d'autres, le chemin est encore plus difficile. Ghislaine Effa.
C'est une histoire de plus de 10 ans. Je me suis lancée d'abord en 2019, où j'ai fait 3 tentatives qui n'ont pas abouti. Puis je me suis lancée l'année dernière où j'ai fait 2 tentatives et c'est la 2e tentative qui a abouti. Alors c'est une expérience très difficile, surtout sur le plan émotionnel et mental. Il faut être accompagné. Dieu merci, je t'ai accompagné par ma famille. Les hommes ne comprennent pas toujours. Financièrement, c'est très coûteux. J'ai déposé 7 millions de 2019 à aujourd'hui. La procédure en elle-même n'est même pas chère, c'est surtout les médicaments qui sont très coûteux.
Les experts en fertilité recommandent souvent un soutien psychologique pour aider les couples à traverser ces étapes difficiles. Roland, plusieurs fois, a cherché à faire un enfant avec sa compagne.
C'est psychologiquement éprouvant parce que le prélèvement des spermes et tout ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut être préparé pour ça. Puisque c'est une décision collégiale, hein, nous l'avons traversée. Je peux pas dire sereinement, mais nous l'avons traversée.
Pour beaucoup de couples, la FIV est une véritable épreuve de vie. Entre patience, larmes et courage, elle montre à quel point le désir d'enfant est puissant.
Le coût de la fécondation in vitro ou d'une insémination artificielle au Cameroun varie entre 2 millions et 2 500 000 francs selon les cas. Un montant qui ne stoppe pas l'engouement des couples qui sont à la recherche d'un bébé. Mimosette Tonnier.
Marthe est une jeune dame, la quarantaine révolue. Elle est maman d'une petite fille âgée aujourd'hui de 3 ans. Son accouchement est intervenu au terme d'une fécondation in vitro. Le coût de ce processus, qui connaît plusieurs étapes, n'a pas freiné la volonté de cette dame de devenir maman. Tout débute avec une batterie d'examens.
Je me suis lancée avec 300 000 et quand la procédure avançait, on m'a dit voilà le montant qu'il faut pour les médicaments. J'ai dit, Seigneur, je suis entrée ici, je ressortirai avec mon bébé, peu importe d'où l'argent sortira. Quand j'avais 100 000, j'avais 50 000, je venais déposer. Et au fur et à mesure, j'ai pu suivre le traitement.
Après son éligibilité pour la suite du processus, Marthe dépose une caution avant son hospitalisation.
Par la grâce de Dieu, j'ai eu la rampe pour la caution et aujourd'hui, j'ai mon bébé. Quand moi-même, je commence, je n'ai pas un argent que j'ai gardé en banque. Le tout, c'est de commencer.
Le cas de Marthe illustre ce que vivent de nombreuses femmes aujourd'hui et certaines vont jusqu'à dépenser le double, voire le triple, selon le nombre de tentatives.
La procréation médicalement assistée est organisée au Cameroun depuis le 14 juillet 2022. Les dispositions de la loi relative à la PMA posent des balises en accord avec la bioéthique et guident les pratiques pour un accès à la procréation en dehors du processus naturel de grossesse. Ce que dit la loi relative à la PMA, c'est l'objet de l'analyse signée Nathalie Mvogo.
La procréation médicalement assistée, PMA, est adossée à une charpente juridique solide, respectueuse de la bioéthique médicale, de la dignité humaine et de la famille. La loi relative à la PMA guide les pratiques permettant d'induire une grossesse en dehors de l'union naturelle de l'homme et de la femme. Les textes sont précis sur les techniques de PMA proposées en fonction de la situation. Il y a l'insémination artificielle avec ou sans donneur, la fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Les conditions d'accès à la PMA y sont clarifiées. C'est ainsi que depuis 2022, l'âge limite de recours à la PMA est fixé à 55 ans pour la femme. La loi se prononce en faveur de la protection de la vie privée et toutes les personnes impliquées dans le processus de PMA sont tenues à l'obligation de réserve et de confidentialité. Spécifiquement, les donneuses d'ovocytes sont informées des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et de gratuité. Sur le chemin de la PMA, les panneaux de signalisation donnent des précisions aux porteurs d'un projet parental. Parmi les panneaux d'interdiction, il y a l'interdiction pour usage commercial et industriel des embryons. La loi est aussi claire sur les sanctions pénales prévues aux articles 51 à 60. Possible de bénéficier du droit à devenir parent à condition de respecter la loi et elle s'impose à tous les candidats à la PMA.
Vous écoutez le 13h et les 13h passées de 14 minutes à Yaoundé. Promouvoir la coopération entre les pays membres dans les domaines de l'exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures et de la pétrochimie, c'est l'objectif de l'Organisation des producteurs de pétrole africain, en abrégé APO, présidée par le ministre des Relations extérieures, séance de travail à huis clos qui se tient depuis le 28 octobre dernier à Yaoundé. Prisca Njeng Mongolo.
Silence, on cogite. Dans l'une des salles de réunion du Hilton Hotel de Yaoundé,
Les représentants de 18 pays échangent sur la question de l'énergie en Afrique. Présent à la rencontre, Bapapa Samba, répondant du Sénégal auprès du conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africain.
Les travaux sont d'une pertinence capitale, surtout à ce moment crucial de l'histoire de notre industrie pétrolière et gazière. C'est le lieu de discuter des projets d'intérêt continentaux pour pouvoir aujourd'hui développer les infrastructures pétrolières et gazières et au-delà apporter de l'énergie à nos populations, et ceci à un moindre coût.
Autre sujet majeur au centre des débats, la question du financement de l'industrie pétrolière et gazière.
D'aborder des questions très stratégiques telles que la mise en place d'une banque africaine de l'énergie qui aura pour objectif d'aider nos pays à pouvoir sécuriser les financements de nos projets stratégiques.
La banque africaine de l'énergie est un début de réponse à la crise du financement. Cette institution est également appelée à soutenir les projets de développement relatifs aux énergies renouvelables. Il est surtout question de sortir le continent africain de la crise énergétique.
Les au revoir de la CRTV à une étoile de l'audiovisuel. Joséphine Ndagnou, directrice déléguée CRTV Production, est arrivée au terme de sa carrière au sein de l'Office. La cérémonie d'hommage et de célébration de cette professionnelle de l'audiovisuel aux multiples casquettes est placée sous la présidence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Occasion pour sa famille professionnelle de redire ce qu'elle représente dans le secteur de l'audiovisuel, ce qu'elle représente également pour les jeunes générations. Agnès Sylvienne Nzama a capté leur témoignage. Voici son reportage.
C'est une professionnelle chevronnée de l'audiovisuel qui est célébrée ce jour à la CRTV. Admise à faire valoir ses droits à la retraite, le jour même de son anniversaire, l'orchestre de la CRTV saisit le prétexte pour une réadaptation du titre « Je vole » de Michel Sardou en « Je pars ». C'est l'occasion aussi pour sa famille professionnelle de lui rendre un vibrant hommage. Chacun y va avec ses émotions et ses mots. Tabé Enonchon, directeur délégué adjoint CRTV Production.
C'est l'image d'une femme travailleuse, insistante, parce qu'elle est tellement pointue sur tout ce qu'elle voulait. J'espère que ce qu'elle a laissé, nous, on saura copier.
Actrice, scénariste, productrice, réalisatrice, madame le directeur délégué de CRTV Production, Joséphine Daniel, dans l'audiovisuel, a excellé dans tous les aspects du métier, de son rôle de Tazibi dans l'étoile de Noudi à la production de Paris à tout prix. Sa carrière a été pleine et riche. Ses collègues n'en retiennent que meilleur. Alain Benga et Michel Ngangé en service à CRTV Production.
Je retiens d'elle l'image d'une capitaine d'équipe passionnée, déterminée et très attachée, surtout à son travail.
Joséphine Dano, cette professionnelle, elle a amélioré la qualité de la production.
La cérémonie de revoir, placée sous la présidence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, permet à l'ensemble de l'Office de lui dire bonne suite.
Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, salue une professionnelle acharnée de l'audiovisuel qui a permis à la CRTV de relever divers challenges pour servir le public et l'État. Et au moment de partir de commencer sa nouvelle vie, c'est avec beaucoup d'émotion, de souvenirs et de conseils aux plus jeunes que Joséphine Danou qui s'exprime au micro d'Agnès Sylvienne Nzama.
C'est surtout l'émotion de quitter une équipe avec laquelle on a travaillé pendant plusieurs années. Mais vous savez très bien que les métiers comme celui de l'audiovisuel, on prend pas de retraite. On a toujours quelque chose à donner. On peut toujours donner si on a envie de donner. Donc, je quitte une équipe, mais mentalement, je sais que je suis à disposition pour accompagner, aider ceux qui viennent après moi. La CRTV, mes plus belles années, ce sont des années de grands challenges, de satisfaire le public avec la contrainte de servir le gouvernement et un challenge aussi par rapport à la concurrence, autant endogène qu'exogène. À l'endroit des plus jeunes, par rapport au métier de l'audiovisuel et du cinéma, je dirais que la technique a beaucoup évolué. Tout le monde peut prendre une caméra et faire un film, une image, mais ce qu'il faut, c'est de la culture, de l'ouverture d'esprit pour pouvoir donner quelque chose de ce qu'on représente à voir au monde. Je voudrais dire un grand merci à monsieur le directeur général parce qu'il m'a donné l'opportunité de finaliser comme je le souhaitais mon passage à la CRTV. Et à mes collaborateurs, voilà, je ne suis plus à la CRTV, mais je suis toujours là.
Le film Bon Vent à Joséphine, le film documentaire télévisuel qui retrace le parcours sociopolitique du président de la République, sera visionné au stade municipal d'Nkovos à Ibolova. Ce sera ce samedi 2 novembre à partir de 10h, à deux jours de la grande rencontre qui va rassembler les ressortissants des quatre départements du Sud. Le gouverneur Félix Ngelengele, président de la commission de supervision, préside tout à l'heure en la salle des conférences de ses services la réunion des évaluation y relative. Quatre boutiques des produits alimentaires et cosmétiques du marché central de Marois ont été consumées par les flammes hier, peu après 19h. C'est l'intervention des éléments du 40e groupement des sapeurs-pompiers qui a permis d'éviter l'embrasement. Sur les lieux du sinistre, le gouverneur Minjiawa Bakari a invité les commerçants à préserver leurs biens en assurant une connexion fiable de leur boutique au réseau électrique. Mal Moussa Le Doublaise, CRTV Extrême Nord.
L'incendie s'est déclaré au moment où les commerçants du marché central de Marois avaient déjà baissé les rideaux de leur boutique. Les veilleurs de nuit et les populations des alentours qui ont accouru ont assisté impuissants à la destruction des quatre boutiques. Aussitôt arrivés, les sapeurs-pompiers ont pu empêcher le feu de se propager. Capitaine Ibéris Ziem Hamed, officier adjoint au 40e groupement des sapeurs-pompiers de l'Extrême Nord.
Nous avons pu circonscrire le feu à ces quatre boutiques. Nous avons procédé à l'extinction progressive en refroidissant progressivement le potentiel calorifique qui s'y trouvait, notamment les marchandises diverses.
La plateforme commerciale de Marois, en proie à des incendies, doit être sécurisée par ses propres occupants en faisant des branchements électriques respectant les normes. C'est le message qu'a fait passer le gouverneur Midiao Bakari.
Il y a fort à parier qu'il s'agit d'un coup sûr. Nous appelons les uns et les autres à plus de responsabilités pour nous éviter à l'avenir ce genre d'incident. Parce que nous allons droit vers la saison sèche. Et vous savez, généralement, en saison sèche, les faits sont légion dans la région.
Il y a donc urgence de prévenir. Marwa Mal Moussa, Le Doublaise, CRTV.
Les représentants des Caritas, des diocèses d'Afrique, bras séculiers de l'Église dans le social et l'humanitaire, sont en conclave ici à Yaoundé. Ils planchent pendant 3 jours sur le thème du leadership transformationnel dans l'optique de mieux venir en aide aux pauvres. En ouvrant les travaux devant un parterre de religieux, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Paul Nyaga, a dit tout le prix que les évêques d'Afrique accordent à ces travaux. Julien Gambi.
La Caritas, bras séculier de l'Église dans le social et dans l'humanitaire, fait son introspection pour relever les défis de son temps. Ils viennent des diocèses d'Afrique, ils sont laïcs, religieux et religieuses, et ils suivent cette session de formation de 3 jours en voulier pour être plus efficaces sur le champ de la générosité et de la charité. Thérèse Emema Mapenzi, responsable de Caritas du Sud de Kivu, archidiocèse de Bukavu en RDC.
Ça nous aide à comprendre les défis des femmes leaders, surtout celles qui travaillent dans l'Église. Et nous essayons un peu de discuter avec les unes et les autres pour voir comment ces défis, on peut les voir comme des opportunités, nous améliorer davantage, les regarder au-delà de ce que nous voyons pour bien construire l'Afrique et construire la Caritas.
Rôle du dirigeant, compétences en matière de conflit, prise de décision sont autant de modules qui meublent cet atelier sur le développement du leadership transformationnel. Comme le souhaitent les évêques d'Afrique, cette session de formation initiée par Caritas Africa entend renforcer les capacités des responsables de Caritas pour leur permettre de mieux être à l'écoute des personnes vulnérables et de toujours placer l'homme au cœur de leurs actions.
La communauté universitaire est satisfaite de l'organisation du colloque international au campus de Soa sur l'intégration en Afrique centrale, consolider les acquis, lever les contraintes, saisir les opportunités. Ce banquet scientifique a pris fin hier soir, un grand moment de réflexion qui doit se matérialiser à travers la publication des ouvrages, comme cela a été instruit par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindongo. Des objectifs atteints, comme le souligne le professeur Désiré Avon, doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, il est au micro d'Arlette Amadou.
L'objectif principal, c'était de réunir l'expertise sous-régionale et internationale pour apporter une contribution significative de l'université à une évolution que nous considérons comme historique, c'est-à-dire le projet qui avait été confié à son excellent monsieur le président Paul Biya par ce PER, projet qui consiste à rationaliser les poids CER, c'est-à-dire la communauté économique régionale de l'Afrique. Donc en fait, l'objectif, c'est de se conformer à la volonté ou au projet de l'Union africaine d'intégrer toute l'Afrique. Et pour intégrer toute l'Afrique, l'Union africaine a créé 8 CER pour faciliter une intégration par région.
En politique, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le département des Bamboutos, invite les responsables politiques de la section RDPC Bamboutos Nord à une importante rencontre politique qui présidera le samedi 2 novembre à 10h précise, suivant le programme qui leur est communiqué. Par ailleurs, il informe les forces vives du département à bien vouloir prendre part à la réunion préparatoire au 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, qu'il présidera le dimanche 3 novembre à 11h précise à la maison du parti de Mbouda. L'honorable Roger Nkododan, membre titulaire élu du comité central du RDPC, président de la section RDPC Nyon Infumu Nord-Est à Kobdombo, invite les responsables de la section à assister massivement à la dernière réunion préparatoire de la célébration du 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui aura lieu à Kobdombo le 4 novembre 2024 à partir de 10h précise. En délélé, la réunion préparatoire en prélude à la célébration du 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya se tiendra le lundi 4 novembre à partir de 11h précise dans la salle des actes de la commune de Ndélélé, sous la présidence du président de la section RDPC KDI Est 1, Innocent Ndilassi. En sport, basketball, l'Africa League 2024 suspense jusqu'à la dernière journée des qualifications de la zone 4 ce soir au gymnase du complexe sportif de Japoma à Douala. Chosport de la République démocratique du Congo décroche le premier ticket qualificatif devant KSA Basket du Cameroun. Un match aux allures d'une finale dans ce groupe C qui comprend l'équipe camerounaise l'équipe camerounaise qui recule au deuxième rang du classement général. La qualification de KSA Basketball passe par une victoire obligatoire ce soir contre Abeille Basket de la République centrafricaine. Samuel Billon.
C'est une deuxième finale sans doute la plus importante dans ce tournoi pour KSA Basket dans la course pour la qualification à la balle Division Ouest Elite 16 à Dakar au Sénégal. L'entraîneur Auguste Siedjou et ses joueurs sont sous pression, surtout après le match intense sur fond de bataille physique et technique soldée par leur première défaite face à la solide formation de Chosport de la RDC portée à bout de bras par son meilleur marqueur, Kylian Rotardi, 18,4 rebonds, et l'impact impressionnant de Étienne Tameton, ancien de KSA, 17,5 rebonds. Après deux victoires contre Moanda du Gabon et Africa King de la Guinée équatoriale, KSA Basket doit donc monter plus haut au filet ce jeudi, varier le jeu, mais surtout se remettre rapidement de l'usure physique et physiologique pour renverser Abeille de la RCA. Attention au réveil des Abeilles, survoltées lors de leur première victoire contre Moanda du Gabon. La sélection de la RCA, dernière au classement, est motivée par l'espoir d'un éventuel exploit sur le parquet du gymnase de Japoma. Les Camerounais ont toutes les cartes de la qualification à leur portée, déjà par une victoire contre cette équipe de la RCA, la moins performante du groupe. Mais en cas d'une nouvelle défaite pour Valentin Lélé et ses coéquipiers, il faudrait espérer que King Africa de la Guinée équatoriale réussisse l'exploit de renverser Chosport de la RDC.
35e tour du Faso, la 7e étape se court ce jeudi entre Bobo Dioulasso et Pa. Elle est longue de 131 km. L'étape d'hier a été marquée par la 3e position de Jérémy Kosoko Sadiku. Pour la première fois, un Camerounais était sur le podium. À présent, voici le condensé des nouvelles du jour en anglais. Patience Ringo.
Good afternoon. the law on the management of archives and the law on the protection of forests and wildlife enacted by the President of the Republic in July 2024 came under scrutiny today in Yaoundé. Prime Minister Joseph Dion Guté and members of his cabinet met for the October cabinet session to analyze the implications of these laws and discuss measures to expedite their implementation. Cabinet members also reviewed the current health situation in Cameroon, concluding that health indicators remain stable. In vitro fertilization, IVF, in Cameroon has become a powerful option for achieving pregnancy when other methods fail. It offers several benefits for individuals and couples facing fertility challenges. For certain groups, especially women with age-related fertility issues, IVF can have higher success rates compared to other fertility treatments. The documentary Paul Biya, a Great Statesman with a Prodigious Destiny, will be screened at the Municipal Stadium in Corvos, Ebolova, on November 2, 2024 at 10 a.m. The event marks the final projection across Cameroon and is expected to draw attendees from all four divisions of the South region. Governor Félix Ngelengele is overseeing preparations, including an evaluation meeting and the opening of the Village Nomgi exhibition fair. The director delegate of CRTV production, Josephine Dangnu, officially retired from her service to Cameroon Radio Television today. A farewell ceremony was organized by her department at CRTV's broadcasting house in Longkak, chaired by the Director General Charles Dongo. In sports, Port Onom will face GAD Presidential in the final of the ongoing Africa Zone 4 Volleyball Club Championship. This morning, Port Onom defeated Inter Volleyball Club of the Republic of Congo 3-1 in the semifinals to secure their spot in the final, while GAD Presidential triumph over Lito of Douala in a thrilling 3-2 tiebreak. And still in sports, three Cameroonian basketball clubs are in action this afternoon at the gymnasium in Douala in the African Zone 4 qualifiers of the 2025 Basketball Africa League. Fab Women of Yaoundé are paired up with Danielle Batitson, still from Cameroon, while Kaji Sport Academy of Douala will take on Abay Basketball Club from the Central African Republic.
À présent, la page réclame du Trésor.
L'Assemblée générale des actionnaires de la Société immobilière du Cameroun, SIC, s'est réunie en session ordinaire le 30 octobre 2024 sous la présidence de Mme Ketcha Célestine, épouse Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, président du Conseil d'administration. Les travaux de l'Assemblée générale ont porté entre autres sur la présentation du rapport de gestion et le rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023. À la demande du président de l'Assemblée générale, le rapporteur de la dite Assemblée, Dr Amadou Sardaouna, directeur général de la SIC, a procédé à la présentation des dix documents. Au terme de cette présentation, il ressort notamment que la SIC a enregistré un chiffre d'affaires de 3,243,527,225 contre un chiffre d'affaires de 3,378,711,146 francs CFA en 2022. Un résultat bénéficiaire de 213,918,088 contre un résultat bénéficiaire de 226,965,684 francs CFA en 2022. Une trésorerie nette de 13,548,438,159 francs CFA. Après la présentation de ces états financiers, l'Assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2023 sous réserve de la prise en compte et incohérences relevées sur certains chiffres et a prescrit l'audit des commissions d'arrangement et autres points à incidence financière sur les résultats de l'entreprise par le président du conseil d'administration et de rendre compte aux actionnaires. En outre, il ressort du rapport du commissaire aux comptes que des terrains inscrits à l'actif du bilan de la SIC pour un montant de 32,45 milliards de francs CFA, dont 22,16 milliards appartenant à l'État et 10,8 milliards dont la SIC ne dispose d'aucune documentation. À cet effet, l'Assemblée générale demande au directeur général de la SIC de faire une cartographie exacte de ses fonciers, investissements ou pas sur le site, et d'accélérer la procédure d'obtention des titres titre foncier. L'Assemblée générale des actionnaires, après avoir pris connaissance de la proposition du conseil d'administration sur l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023, a décidé à l'unanimité de l'affecter ainsi qu'il suit. Réserve légale 10%, 21 391 809 francs CFA. Dividende 90%, 192 526 279 francs CFA. Payez vos impôts en quelques secondes avec Mobile Money. Vous avez rempli votre déclaration et vous ne savez toujours pas comment payer vos impôts? Avec Momo, payez vos impôts depuis votre téléphone en quelques secondes, en toute sérénité, où vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Composez étoile 126 dièse, tapez 2 puis 7 et payez vos impôts en toute sécurité. Alors, n'attendez plus, rejoignez les milliers de Camerounais qui ont déjà choisi Momo pour simplifier leur vie. Gagnez du temps, payez vos frais de scolarité et d'examen en toute sécurité avec Momo. Composez étoile 126 étoile 007 ou allez sur minesecpay.cm. Entrez votre matricule, payez et recevez votre reçu instantanément.
À retenir de cette édition qui s'achève, procréation médicalement assistée, le miracle est possible. La science et la patience ont déjà permis la naissance de 500 bébés au Crasser. Une prouesse médicale qui a un coût et qui répond à des exigences légales. C'est la fin de cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi.